Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Après plusieurs épisodes au cours desquels j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions hyper intéressantes avec divers acteurs de la transition écologique et que je t'invite à aller écouter ou réécouter sur ta plateforme préféré ou sur le site internet de la Terre dans les épinards, retour donc à un format où je me retrouve à parler tout seul devant mon micro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aborder le sujet du réchauffement climatique et en particulier, je souhaiterais essayer de répondre autant que faire se peut à la question « Où en est-on exactement ?» Parce qu'au final, tout ça semble un peu flou. On sait qu'il est question de limiter les émissions de gaz à effet de serre. On entend parler de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés, mais au final, quel est l'objectif réel? Comment peut-on agir? Parce que vouloir s'engager dans une démarche écologique, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on sait ce qu'on vise. Ça permet d'avoir des objectifs à peu près clairs et aussi d'évaluer la portée de ses actions. Alors allons-y. Pour tâcher d'y voir plus clair, je me suis tourné vers ce qu'on peut considérer comme la référence sur le sujet de la question climatique, à savoir le GIEC, dont tu auras probablement entendu parler particulièrement au cours de l'année 2022. Pour rappel, comme l'indique son site internet, le GIEC est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est donc un ensemble de scientifiques spécialisés sur le sujet qui existe depuis 1988 et qui a donc eu l'occasion en plus de 30 ans de peaufiner ses modèles et de collecter un certain nombre d'informations pour fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Au cours de ces années de travail, le GIEC a produit 6 rapports d'évaluation faisant état de manière régulière de l'état des lieux des connaissances les plus avancées sur le climat. Le GIEC est divisé en 3 groupes de travail. Le groupe 1 s'intéresse à la physique du changement climatique et observe et analyse le climat passé, le climat actuel et son évolution future, notamment en établissant des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre par l'humanité. Le groupe 2 travaille, lui, sur les conséquences du changement climatique sur les sociétés et les écosystèmes. Le groupe 3 s'intéresse, quant à lui, aux solutions pour réduire les émissions, mais également éliminer des gaz à effet de serre de l'atmosphère. On y reviendra. Les rapports d'évaluation sont donc en plusieurs volumes correspondant aux conclusions des travaux de chacun des groupes. Bref, tu l'auras compris, les rapports du GIEC sont une bonne base pour savoir un peu où on en est. Le dernier rapport d'évaluation, comme tu le sais sans doute, est sorti l'année dernière en 2022 et on va s'y intéresser un peu, sans trop rentrer dans les détails d'un compte-rendu qui peut être assez technique et pas toujours simple à lire ou à comprendre. D'ailleurs, comme on n'a pas toujours le temps de se pencher de manière approfondie sur ces rapports très complets, une alternative peut être les vidéos. Ou les podcasts, n'est-ce pas ? Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et coprésidente du groupe 1 du GIEC, qui s'intéresse donc à la physique du climat, était l'invitée de Vince, de la chaîne YouTube Limite, qui s'intéresse globalement aux limites planétaires, et que je t'invite au passage à consulter. Je mettrai un lien dans la description de l'épisode. Dans cette vidéo donc est abordé le sujet du réchauffement climatique. Que peut-on en retenir? On peut déjà revenir un peu sur les bases en rappelant que le réchauffement climatique que l'on observe ces dernières années a commencé avec la révolution industrielle, qui est à l'origine d'une augmentation conséquente de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre due à l'exploitation de ressources fossiles. Théoriquement, la végétation et les sols sont capables d'absorber 30% de nos émissions de dioxyde de carbone annuelles, alors transformées en matière organique, et les océans peuvent en absorber 25%, ce qui conduit à leur acidification. Je te renvoie à ce sujet à l'épisode 8 de la saison 1, sur les limites planétaires, au cours duquel l'acidification des océans et ses conséquences sont brièvement mentionnées. Le problème, c'est que les écosystèmes sont saturés et ne peuvent plus absorber davantage que ce qu'ils font actuellement. Comme le précise Valérie Masson-Delmotte, ils ne peuvent donc plus masquer l'effet ou les conséquences de nos activités. La température moyenne, donc, est en train d'augmenter. L'accord de Paris en 2015 visait, et vise toujours, à limiter l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés, et idéalement en deçà de 1,5 degré qui, rappelons-le, est prise en référence au niveau d'avant la période industrielle, donc en gros vers 1800, c'est-à-dire avant que l'activité humaine ne commence à avoir des conséquences importantes sur le climat. Il convient de noter que ces hausses de température restent des ordres de grandeur qu'il convient de ne pas prendre de manière trop stricte. C'est-à-dire qu'on ne passera pas à aucune conséquence tant qu'on est en dessous de 1,5 degré au déluge au-delà de cette température. Les conséquences du réchauffement climatique se feront ressentir avant et de plus en plus au fur et à mesure du réchauffement de manière continue. Il est toutefois établi que les conséquences seront particulièrement importantes à compter d'environ 1,5 degré et s'aggraveront au fur et à mesure que l'on dépassera cette limite, le coût d'adaptation devenant de plus en plus important, d'où la nécessité de limiter le réchauffement autant que possible. Selon Jean-Marc Jancovici, également invité sur la chaîne Limite, nous étions l'année dernière à une hausse de température de 1,2 degré. Dans le résumé à l'attention des décideurs que l'on peut trouver sur le site internet du GIEC, plusieurs scénarios sont étudiés pour envisager différents futurs climatiques possibles, par exemple en considérant une émission croissante des émissions de CO2 ou une réduction jusqu'aux environs de 2050 suivie d'une émission négative, c'est-à-dire qu'on émine davantage de dioxyde de carbone qu'on en émet. Selon ce résumé, parmi les mauvaises nouvelles, parce qu'il faut bien les évoquer, certains changements dus aux émissions de gaz à effet de serre sont d'ores et déjà irréversibles à l'échelle de siècles ou de millénaires. Parmi eux, le réchauffement de l'océan, la fonte des glaciers polaires et glaciers de montagne et l'élévation du niveau de la mer sont des phénomènes qui vont se poursuivre à l'avenir à plus ou moins long terme. À titre d'exemple, pour avoir un ordre de grandeur dans le scénario le plus favorable, le GIEC prévoit une élévation du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres et dans le cas le plus défavorable de plusieurs mètres d'ici la fin du siècle. En étudiant ces divers scénarios, le GIEC a établi que la hausse de température pouvait aller jusqu'à plus de 5 degrés dans le pire scénario. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. La première, c'est que les scénarios les plus pessimistes qui ont été établis il y a 30 ans sont considérés aujourd'hui comme moins plausibles grâce aux politiques publiques mises en place, à l'accès à une électricité bas carbone et une mobilité différente aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ans. Autre bonne nouvelle, il y a ensuite des scénarios étudiés par le GIEC qui permettent de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Pour y parvenir, deux conditions sont nécessaires. D'une part, il faut diminuer fortement les émissions de CO2, tout en se donnant les moyens en parallèle d'éliminer les émissions résiduelles dont on ne peut s'affranchir, pour que les émissions dites nettes de CO2 deviennent nulles, c'est-à-dire qu'on n'émette pas plus de CO2 que l'on est capable d'en enlever. Et par enlever, on entend bien en enlever par l'activité humaine, et non en comptant sur la planète qui fait déjà du mieux qu'elle peut. L'idée, c'est de prélever le CO2 dans l'atmosphère pour diminuer sa concentration. Un exemple donné par Valérie Masson-Delmotte est le suivant, faire pousser des cultures pour produire de la biomasse, ces cultures absorbant du CO2 dans l'atmosphère, puis brûler ces cultures pour produire de l'énergie, électricité ou chauffage, récupérer le CO2 lors de cette production et l'enfouir. On a ainsi prélevé ou capté du CO2 que l'on a enfoui. Pour respecter l'objectif de 1,5 degré, il faudrait atteindre ces émissions nettes zéro autour de 2050. La deuxième condition est de limiter les émissions de méthane, deuxième facteur majeur du réchauffement climatique et issu en particulier des fuites de gaz et de l'élevage de ruminants. Donc, en résumé, nous sommes actuellement, ou du moins l'étions-nous l'an passé, à une hausse de la température de 1,2 degré par rapport au niveau pré-industriel, et un scénario réaliste et qui permettrait de limiter les dégâts serait de parvenir à limiter cette hausse en dessous de 1,5 degré et, dans tous les cas, la limiter au maximum, peu importe en réalité sa valeur, dans la mesure où les conséquences commencent déjà à se faire ressentir et deviendraient de plus en plus importantes au fur et à mesure que la hausse de température augmenterait. Pour arriver à ça, que peut-on faire ? À l'échelle individuelle, ça peut passer par réviser l'isolation de son logement, revoir son système de chauffage pour passer d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur, avoir une mobilité différente en privilégiant par exemple le vélo ou en ayant une voiture électrique qui utiliserait une énergie décarbonée. Il peut s'agir aussi de revoir son alimentation pour privilégier davantage les protéines végétales, ce qui permet de réduire ses émissions de CO2 mais également les émissions de méthane liées à l'élevage. Une fois n'est pas coutume, soulignons qu'il ne s'agit pas de passer nécessairement, par exemple, à une alimentation exclusivement végétarienne, mais à nouveau, de réfléchir à sa consommation pour consommer de manière raisonnée. Valérie Masson-Delmotte le souligne bien d'ailleurs en précisant que des émissions carbone résiduelles seront plus ou moins inévitables. Par exemple, prendre l'avion peut parfois être nécessaire, mais c'est un secteur qu'il est compliqué de décarboner. Dans tous les cas, je te renvoie aux épisodes de la première saison, notamment celui sur la surconsommation et l'empreinte carbone, pour plus de détails sur la manière de limiter ta surconsommation et ton empreinte carbone. Je te renvoie à nouveau au site nosgestesclimat.fr qui continue d'évoluer et qui te proposera des actions hiérarchisées selon l'impact qu'elles te permettront d'avoir sur ton empreinte carbone. Pour la partie captage du CO2 de l'atmosphère, après, c'est une autre histoire et dans la mesure où on ne peut pas tous planter des arbres chez nous, il peut être compliqué d'agir à l'échelle individuelle. Mais bon, on a quand même un levier d'action sur la partie réduction, ce qui est déjà un bon début. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager, à t'abonner, à laisser un commentaire sur Facebook ou Instagram, à t'abonner à la newsletter, à me faire part de tes suggestions pour les épisodes à venir. Et en attendant le prochain, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut !